place publique. Voir les arbres qui tombent n'empêche pas de voir la forêt qui pousse. Cette phrase est reprise par le chef du service neuchâtelois de l'économie, Jean-Claude Tully, qui invite les habitants du canton de Neuchâtel à être fiers de leur économie. Un rapport publié cette semaine tend à montrer que l'État soutient et accompagne avec succès de nombreuses entreprises. Notre entretien dans un instant. Et le 10 février, les Bernois voteront sur deux objets cantonaux, la loi sur l'énergie et la loi sur la police. Deux lois qui sont modifiées mais qui sont attaquées par référendum. Dès 18h30, Place Publique vous propose deux débats avec quatre invités en direct. Il sera notamment question du coût, de l'efficacité énergétique pour nos logements, ainsi que de la nécessité de permettre à la police d'assurer ses tâches plus efficacement, sans nuire à nos libertés.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Parfois, il vaut la peine de prendre du recul pour mieux observer ce qui se passe. C'est en tout cas la démarche choisie par le service neuchâtelois de l'économie. Il vient de publier un rapport qui détaille son action auprès des entreprises durant 4 ans, entre 2014 et 2017. Et l'un des premiers enseignements que tire le canton de Neuchâtel, c'est que sa population n'a pas à rougir de son économie. Ses habitants peuvent même en être fiers, ce qu'ils ne sont pas suffisamment. C'est en tout cas l'avis de Jean-Claude Tully, chef du service neuchâtelois de l'économie.
Je dirais que peut-être qu'on est insuffisamment fiers dans le canton de Neuchâtel de notre économie, avec une tendance à voir souvent plutôt la partie vide du verre que plutôt celle qui est pleine. Donc l'idée, c'est de démontrer et de mettre en perspective un certain nombre de chiffres et d'actions aussi qui sont menées au sein du tissu économique, de manière à informer de manière aussi objective que possible de ce qui est réalisé en matière d'appui au développement économique dans le canton.
Vous nous dites en fait, arrêtez de regarder seulement le taux d'imposition parmi les plus élevés de Suisse, arrêtez de regarder le taux de chômage qui est parmi les plus élevés de Suisse. Il y a d'autres indicateurs qui nous montrent que l'économie neuchâteloise se porte bien.
Alors tout à fait, d'autant plus qu'on a un certain nombre de réformes aussi qui sont en cours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue des personnes morales, le canton est extrêmement attractif et les réformes en cours qui visent à la fois les personnes morales et les personnes physiques vont certainement rendre le canton beaucoup plus attractif. En ce qui concerne le chômage, il faut savoir qu'on est aujourd'hui au plus bas niveau de chômage depuis les 10 dernières années et que, disons, en baisse, en proportion d'un point de vue annuel, on est parmi les plus bas taux aussi de Suisse.
Et vous nous dites aussi que le canton de Neuchâtel est une des rares régions en Europe qui peut se targuer de voir ses emplois industriels avoir augmenté ces 40 dernières années. Et puis le canton de Neuchâtel est aussi en tête, et ça on le dit souvent, mais c'est important, en tête du nombre de brevets déposés par habitant.
Alors c'est tout à fait, ce sont les caractéristiques génétiques du canton de Neuchâtel que d'être extrêmement innovant. Une autre caractéristique est aussi que le canton de Neuchâtel a plus de 40% de son produit intérieur brut qui est constitué par le secteur secondaire. Par analogie, en Suisse, il est pas loin de 25%, en Europe à 13%. Donc ça démontre que le canton de Neuchâtel est un canton qui est créateur de richesses.
Ça démontre aussi que le canton de Neuchâtel, son économie est fragile, indépendante du contexte international, de la force du franc. On le voit avec l'horlogerie, on le voit aussi avec ses grands pourvoyeurs d'emplois, comme dans la pharma, qui changent d'un jour à l'autre de propriétaire.
Alors je dirais qu'effectivement, l'économie neuchâteloise est peut-être plus vulnérable par son caractère industriel et exportateur, avec son PIB donc, qui est constitué à 40% donc, du secteur secondaire, encore une fois. Ceci dit, cette un canton qui est créateur de richesses, pour voir les efforts qui sont consentis par nos voisins européens et américains pour réindustrialiser leur tissu industriel, alors qu'on a la chance, dans le canton de Neuchâtel, d'avoir une économie qui produit des richesses réelles.
Alors si on se penche sur ce rapport quadriennal, donc, qui détaille les mesures que vous avez prises ces quatre dernières années pour soutenir l'économie du canton, on le voit, 80% des ressources allouées aux projets économiques concernent pour 80% le tissu local. Pourquoi c'est important de le souligner ?
Alors, c'est important de le souligner, d'une part, parce qu'il y a une base de diversification aujourd'hui qui existe, qui est importante, et l'ancrage des sociétés qui sont déjà sur le territoire neuchâtelois est fondamental, et d'accompagner donc des investissements de deuxième génération, par exemple, ou d'accompagner le développement de sociétés dans leur innovation est tout aussi important, voire plus important, que d'implanter des sociétés qui viennent de l'étranger.
L'appui économique, l'appui au développement économique, en 4 ans, ça représente 15 millions, plus de 160 sociétés et plus de 3 000 emplois.
Alors, ce sont effectivement 3 000 emplois qui ont été créés par ces différents soutiens, 163 sociétés qui ont été accompagnées, pas nécessairement d'ailleurs de manière financière, donc aussi par des mises en relation, par des accompagnements aussi pour les accompagner à travers les services de l'administration publique, pour les aider dans leur développement. Donc, encore une fois, pas que des aides de nature financière.
C'est le secteur industriel qui reçoit la majeure partie de ces soutiens.
Alors, encore une fois, c'est révélateur aussi des caractéristiques génétiques de notre tissu qui est constitué en grande partie du secteur industriel. Et je dirais, en accompagnant le secteur industriel et le secteur d'exportation, ça va générer quelque part aussi un bénéfice pour ce qu'on appelle l'économie induite, c'est-à-dire tous les arrêts métiers dont on parle évidemment peut-être pas beaucoup, mais effectivement c'est cette dynamique-là qui va permettre d'avoir des retombées ensuite économiques sur le reste du tissu et les autres typologies d'entreprises.
Vous nous montrez aussi que quand vous soutenez la recherche et le développement, un franc investi rapporte beaucoup plus parce que les entreprises, par effet de levier, si vous les soutenez, arrivent à récupérer d'autres fonds.
Alors on peut citer par exemple le chiffre du soutien qu'on a apporté aux sociétés, disons, innovantes et qui ont fait l'objet d'un accompagnement des programmes de recherche où on a un effet de levier dit de 5, c'est-à-dire que pour un franc investi dans le projet par le service de l'économie, c'est plus de 5 francs qui sont mis par d'autres types d'investisseurs.
Et autre chiffre réjouissant, c'est que 90% des start-up que vous avez soutenues ces 4 dernières années étaient toujours en activité l'année dernière, en 2018.
Effectivement, donc ce sont 57 sociétés qui ont été soutenues pour démarrer leur activité. C'est réjouissant de constater qu'il y en a 9 sur 10 qui restent sur le territoire neuchâtelois.
Alors s'il y a un indicateur qu'on regarde volontiers, qu'on scrute, c'est celui du nombre d'implantations d'entreprises en terre neuchâteloise. Vous dites qu'il y en a eu une cinquantaine dans le canton en 4 ans, avec aussi des exemples précis, notamment la société BT spécialisée dans les blockchains, ou bien encore une société belge spécialisée dans les vitrages, notamment dans les techniques solaires. Pourquoi ces deux exemples d'entreprises sont à mettre en avant par rapport à votre politique d'implantation?
C'est important de le mettre en avant parce qu'on a une démarche, encore une fois, qui est qualitative et où on va chercher aussi des éléments de diversification. À titre d'exemple, plus de 20% des implantations étaient réalisées dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. On a 20% des implantations qui ont été réalisées dans le domaine des dispositifs médicaux et 15% dans le domaine des énergies renouvelables. Donc ça contribue à la diversification, encore une fois, du tissu industriel basé toujours sur nos compétences distinctives qui font du canton quelque chose d'unique.
Donc une entreprise qui s'implante en terre neuchâteloise, vous lui demandez pas seulement de travailler dans son coin et d'employer le plus de monde possible, vous demandez à ce qu'elle puisse aussi rayonner et servir à d'autres activités qui puissent se développer.
Tout à fait, l'objectif est de cibler des sociétés dont on peut espérer ou imaginer que l'ancrage sera fort et à long terme.
Donc vous misez par exemple sur le blockchain ou les monnaies numériques un jour comme étant un domaine stratégique pour l'économie neuchâteloise?
Je dirais surtout sur la partie blockchain plus que sur les crypto-monnaies en tant que telles. Ce sont effectivement des technologies naissantes et on ne peut pas être absent d'un domaine d'activité qui peut générer potentiellement beaucoup d'emplois à terme et une forte activité.
L'État de Neuchâtel n'est pas seulement un mécène, c'est aussi un facilitateur qui doit par exemple trouver des terrains pour permettre aux entreprises de développer leurs activités. Quand on voit la densité du canton de Neuchâtel, c'est pas forcément simple, surtout quand on pense aussi aux nouvelles exigences légales en termes d'aménagement du territoire. Là, quand même, le service de l'économie a pu jouer son rôle.
Alors tout à fait, vous avez raison de souligner que la partie subsidiaire en matière de financement n'est qu'un rôle, mais je dirais le rôle le plus important est bien celui-là. Il est celui de faciliter par des mises en relation, par exemple, entre différentes sociétés ou des instituts de recherche, mais également de voir aussi avec les autres services, avec les autres collègues des services de l'État, quelles solutions on peut apporter aux besoins de l'économie.
Alors si on regarde ce rapport quadriennal, on a l'impression que tout s'est bien passé en 4 ans, que c'est qu'une success story. Or si on regarde ces 4 dernières années, il y a le traumatisme du taux plancher avec le Francfort, il y a ces annonces de délocalisation ou de suppression d'emplois par centaines dans le canton de Neuchâtel. Ça veut dire quoi? C'est que vous fermez les yeux?
Non, on est bien conscient que tout ne va pas comme on souhaiterait que ça aille. On a vécu évidemment un certain nombre d'événements très douloureux, mais l'objet aussi de ce type de rapport est de mettre aussi en perspective dans le temps, c'est-à-dire dans la durée, et de mettre aussi en perspective sur différents axes ce qui peut se passer dans le tissu économique neuchâtelois. Autrement dit, de ne pas uniquement voir les arbres qui tombent, mais surtout de voir aussi toute la forêt qui pousse.
Place publique.
Les Bernoises et les Bernois voteront le 10 février sur une modification de leur loi cantonale sur l'énergie. Cette révision a pour but de renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments et de favoriser les énergies renouvelables. Le nouveau texte doit traduire en mesures précises les intentions de la stratégie énergétique 2050 validée par le peuple suisse. Le Conseil exécutif et une majorité du Grand Conseil soutient le projet. Une loi modifiée censée profiter à l'économie aussi et à terme aux propriétaires d'immeubles. Mais les opposants estiment au contraire que les nouvelles exigences sont trop contraignantes, trop strictes. Elles nuiraient aux intérêts des propriétaires et feraient grimper inutilement les prix des logements. Deux invités sont avec nous pour en débattre. D'abord vous, Moussia de Watteville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée au Grand Conseil bernois, merci d'être avec nous. Et également présente Anne-Caroline Grabert, bonsoir.
Bonsoir.
Députée UDC à ce même Grand Conseil bernois. On commence avec vous, Anne-Caroline Grabert. L'urgence d'agir pour le climat se fait de plus en plus pressante, hein, c'est au quotidien. Pourquoi ne pas vouloir des mesures concrètes pour y parvenir dans un domaine où chacun peut contribuer à diminuer sa consommation d'énergie ?
Bon, tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes appelés à voter le 10 février prochain sur une révision de la loi sur l'énergie dans le canton de Berne, une loi qui est entrée en vigueur en 2012. Cette même loi a été révisée pas plus tard qu'en 2016 et c'est un rythme extrêmement rapide. Et si on prend ces deux années, 2012 et 2016, on est en droit de parler véritablement de harcèlement législatif.
Harcèlement législatif, le mot est fort, parce que pour vous, il n'y a pas d'urgence à agir encore plus loin ?
Vous savez, personne ne conteste qu'il faut prendre des mesures pour limiter les émissions de CO2, cela dans tous les camps, dans tous les partis politiques. Le canton de Berne est déjà exemplaire en la matière. Nous avons dans le canton de Berne une loi sur l'énergie qui est une des plus sévères de Suisse, au point que le VVF, qui est connu pour être extrêmement exigeant et sévère en matière environnementale, a reconnu en 2014 qu'avec sa loi sur l'énergie, Berne fait partie des cantons exemplaires en la matière. Donc actuellement, nous avons déjà des dispositions législatives très exigeantes.
Moussia de Watteville, pourquoi vouloir contraindre davantage alors que le canton de Berne, on vient de l'entendre, a une loi encore toute fraîche, toute jeune et suffisamment exigeante ?
Alors, je pense qu'il faut regarder la vitesse à laquelle les choses évoluent, que ce soit autant au niveau du climat, on a vu d'un été à l'autre ce qui peut se passer, les extrêmes climatiques qui se répètent. Alors, c'est clair que ça peut paraître rapide, mais l'évolution technologique suit. Et là, les ingénieurs, on vous dit, on a les moyens technologiques, donc il n'y a pas de raison d'attendre. L'urgence climatique est là. Et puis, je ne vois pas en quoi c'est du harcèlement législatif. On peut être un canton pionnier. On n'est pas du tout à contraindre plus, on peut être progressiste et proactif et dans le domaine être un exemple. Quand vous avez aussi les régions touristiques qui ont des discours alarmistes sur la situation qu'ils rencontrent, je pense qu'on doit et on peut aller de l'avant.
Alors on peut aller de l'avant, ça veut dire que cette modification est jugée nécessaire par vous-même. Qu'est-ce qu'elle doit apporter de plus qui n'existe pas actuellement ? Qu'est-ce qui va changer si on dit oui, qui vous semble absolument nécessaire, Moussia de Watteville ?
Alors elle va promouvoir les énergies renouvelables, ce qui est aussi au programme de la Confédération. Elle va permettre d'assainir plus rapidement les bâtiments. On dit qu'actuellement, j'aime pas trop les chiffres, mais on dit qu'on assainit un régime de 1%. Donc il faudra attendre 100 ans pour assainir tous les bâtiments. Ça permettrait de donner une bonne impulsion et d'aller de l'avant dans ce domaine-là.
Finalement, Anne-Caroline Grabert, qu'est-ce qu'il y a de si problématique à vouloir aller plus loin, limiter au maximum par exemple les chauffages au mazout, alors qu'on a la technologie pour se chauffer autrement, utiliser d'autres ressources, on pense au solaire, au chauffage à distance, aux pompes à chaleur?
Absolument, et il faut reconnaître que tout n'est pas mauvais dans cette loi, mais ici fondamentalement nous sommes en présence d'un débat qui oppose les forces politiques qui ont une conception étatiste du changement, qui veulent qu'on recoure à des mesures très contraignantes, bureaucratiques, qui aggravent encore l'inflation législative qui étouffe nos sociétés, à des forces politiques qui font davantage confiance à la technologie. Moussia de Watteville vient de le mentionner, la technologie n'a pas attendu des mesures contraignantes, et puis ces forces politiques que je représente font confiance effectivement à la technologie, mais aussi à l'économie et à la société en général. Si je prends d'abord l'exemple de l'économie, les entreprises n'ont pas attendu que des lois contraignantes les obligent à mettre sur le marché des pompes à chaleur ou des sondes géothermiques. Elles l'ont fait spontanément et à un rythme de progrès de productivité très élevé dans le domaine. Donc, mon camp, et ce n'est pas seulement des irréductibles UDC, hein, c'est des personnes qui appartiennent à la droite en général, mais aussi au centre, même au centre-gauche, eh bien, est favorable à maintenir cette confiance dans la technologie, l'économie et la société. J'aimerais encore mentionner le fait que la conseillère nationale bernoise Christa Marc-Valder, très connue pour être une très grande partisane de l'Union européenne, elle-même est opposée à cette révision de la loi sur l'énergie, alors qu'elle s'inscrit au centre-gauche. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, d'une opposition strictement UDC. Si vous me permettez d'utiliser ou de recourir à un exemple personnel, actuellement, ma famille et moi, nous avons déposé un projet de rénovation de la maison et de construction d'un nouvel appartement. La loi actuelle nous oblige à augmenter considérablement l'isolation, alors que les murs sont déjà très sains, sont constitués d'une double rangée de briques. La loi nous oblige à mettre des panneaux solaires sur le toit, ce que nous faisons extrêmement volontiers. Et à l'heure actuelle, de notre propre initiative, nous avons décidé de remplacer notre chauffage au mazout par des sondes géothermiques. Alors, vous savez, je ne prétends pas être une enfant de vertu, absolument pas, mais malgré les coûts supplémentaires, ma famille et moi avons décidé de passer aux sondes géothermiques.
Eh bien, on en prend bonne note, Anne-Caroline Graber. Moussia de Watteville, une réaction de votre part.
Et je ne suis pas la seule.
Finalement, pourquoi contraindre, alors qu'on le voit bien, la tendance est bien installée, sans même cette nouvelle loi, certains propriétaires vont déjà dans le sens que vous prônez. Est-ce que finalement cette modification n'arrive pas un peu comme la grêle après les vendanges? Le marché s'en est déjà saisi de cet objectif?
Alors heureusement que les marchés s'en sont déjà saisis, mais si vous suivez quelques débats à la télé, vous avez quand même souvent l'économie qui dit mais la politique est à la traîne, on a tous les moyens là, on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc moi je pense que c'est, contrairement à dire c'est une contrainte, c'est une incitation supplémentaire. Si vous, juste un petit exemple, l'année passée, le canton du Valais a introduit la taxe au sac. Ça a diminué de 30% la quantité de déchets. Donc on pourrait bien dire à tous les Valaisans sont assez malins, ils ont recyclé. Non, il a fallu quand même cette mesure-là. On va taxer les sacs pour que les gens se disent « Ah, je pourrais peut-être un peu réfléchir puis faire autrement ». Heureusement qu'il y a déjà plein de gens et on est dans un système qui évolue. Heureusement, je le salue. Mais pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas l'idée de se renseigner, de se dire « Oh là, est-ce que je pourrais mettre une pompe à chaleur ?» ou qui n'ont simplement pas cette sensibilité-là, parce que tout le monde ne l'a pas, eh ben cette loi, elle va mettre un certain cadre et elle va aider à faire avancer les choses. Quand on voit les étudiants qui sont dans les rues, qui vont encore manifester cette semaine, tout ce qui s'est passé actuellement avec le climat, il me paraît totalement irresponsable d'utiliser des arguments comme le volontariat pour ne pas aller de l'avant avec cette loi.
Pourquoi, Anne-Caroline Graber, alors que vous-même, personnellement, avec votre famille, vous faites les travaux nécessaires, et vous qui enseignez aussi à des collégiens, vous n'arrivez pas à soutenir l'objectif ambitieux, certes, de cette loi, qui ne prône finalement rien d'autre que des investissements censés être intelligents, qui, à long terme, vont rapporter à ceux qui les consentent, en tout cas aussi votre calcul, on l'imagine?
Vous savez, cette réforme de la loi sur l'énergie ne mise justement pas sur des incitations, mais elle contient de nouvelles interdictions, de nouvelles contraintes bureaucratiques, des mesures très étatistes. Et actuellement, il ne faut surtout pas oublier, encore une fois, que la loi bernoise d'aujourd'hui est déjà très exigeante. Elle a été adoptée en 2011, entrée en vigueur en 2012, révisée en 2016. Enfin, bientôt, tous les 4 ans, on aura des nouvelles contraintes, on ne peut pas. C'est, encore une fois, il s'agit d'un véritable harcèlement législatif. Maintenant, s'agissant des jeunes qui manifestent, j'ai beaucoup de sympathie pour les jeunes, mais ils s'engagent aussi souvent dans une voie extrêmement idéologique. Je vous rappellerai que dans les années 1980, on annonçait la mort des forêts. Ça n'a absolument pas été à la mesure des prédictions apocalyptiques. Absolument pas. Et la forêt, aujourd'hui en Suisse, se porte bien. Et je crois même savoir qu'elle progresse chaque année. Ensuite, s'agissant s'agissant de ces mesures très contraignantes qui sont soutenues par les forces politiques favorables à un changement contraint, un changement étatiste, si vous voulez, j'aimerais aussi dire qu'elles menacent le pacte social. L'entrée en vigueur du projet sur lequel on va voter provoquerait non seulement une augmentation des coûts pour les propriétaires, mais également une augmentation des loyers, inévitable. Et ça menace le pacte social, ça réduit le pouvoir d'achat des personnes. Et Dieu sait que je suis attachée à l'environnement très fortement, mais le pacte social est aussi extrêmement important. Dans le même ordre d'idées, certains écologistes proposent le litre d'essence à 5 francs. Et ben pour toutes les familles de la classe moyenne ou qui ont des difficultés à la fin du mois, se déplacer en voiture deviendrait un luxe.
On vous a bien compris. Et sur ce point en particulier, Moussia de Batteville, par rapport à la cherté qu'impliquerait cette loi et cette menace sur le pacte social, c'est ce que nous dit Anne-Caroline Graber.
Oui, bon, elle a dit beaucoup de choses. J'aurais peut-être juste voulu revenir avant sur des faits, disons, cette urgence climatique. Si on regarde effectivement la cherté du mazout, par exemple, alors on a une majorité actuellement de chauffage à mazout. Le canton de Berne, il y a des calculs qui ont été faits, dépense 1 milliard par année pour acheter du mazout. Mais est-ce que juste là, sur ce point-là, on n'aurait pas meilleur temps de se dire, ben voilà, on va chauffer au bois. Le bois, on l'a au canton de Berne. On doit pas dépendre de l'étranger sur ce point-là. Et sur ce point-là, moi, je pense qu'on arrive vraiment mieux à faire local. On nous reproche souvent cette histoire des finances. Alors, l'argument peut-être simple qu'on peut remettre en retour, c'est qu'est-ce que ça va nous coûter si on ne fait rien ? Ça, c'est une question grande ouverte. Et puis, moi, je pense que si on regarde, on a un bâtiment, un locatif, OK, le chauffage arrive à échéance, il tombe en panne ou bien il est vieux, il faut le changer.
Ça peut arriver l'hiver, par exemple.
Voilà. Mais alors, de toute façon, dans l'urgence, le chauffage sera réparé, remplacé pour que ça continue de fonctionner puis que les gens ne gèlent pas la nuit suivante. Maintenant, avec cette nouvelle loi, qu'est-ce qu'il leur sera proposé à ces gens ? 12 solutions standards à étudier. Et puis, que la loi soit là ou pas, il va falloir changer le chauffage. Simplement qu'avec cette loi, on va pousser un petit peu plus loin que ce serait fait actuellement. Et je pense que, vu l'urgence climatique et tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a à disposition, il est, à mon avis, irresponsable de ne pas voter cette loi. Et si j'ose encore juste me permettre...
Ce sera le mot de la fin, d'ailleurs.
Que cette loi est en fait un compromis. La gauche a vraiment, vraiment mis raboté tout ce qu'on a pu. On pourrait presque dire que les Verts, on est même contre cette loi, tellement elle a été rabotée. Et pour une fois, on pourrait dire, ben voilà, la gauche a vraiment fait un compromis. On a soutiré plein d'éléments. Alors, les sont là passés comme ça.
Eh bien, le dernier mot reviendra aux votants qui peuvent réécouter ce débat s'ils le souhaitent pour se forger une opinion. Merci à toutes les deux, mesdames, d'être venues dans Place Publique. Moussia de Batteville et Anne-Caroline Graber, toutes deux députées au Grand Conseil bernois. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.
Et il est temps de passer à notre second débat de la soirée en vue des votations du 10 février. Selon certains, la police bernoise n'aurait plus les moyens de lutter efficacement contre la criminalité. Raison pour laquelle le Conseil exécutif et une majorité du Grand Conseil recommandent de dire oui à une révision totale de la loi sur la police. L'une des mesures les plus contestées et qui a notamment incité le lancement d'un référendum, c'est la possibilité de réaliser sous condition des recherches secrètes dans le cadre d'enquêtes préliminaires durant un mois, en tout cas sans autorisation judiciaire. Pour les opposants, c'est la porte ouverte à une violation en règle de la sphère privée et la mise en place d'un État fouineur. Un mécontentement alimenté, grandi par d'autres mesures, tout autant controversées, comme par exemple des nouvelles possibilités de renvoi à l'encontre notamment des gens du voyage, ou encore la possibilité de facturer tout débordement dû à des violences aux organisateurs de manifestations. On va en débattre de ces points avec nos deux invités suivants. Par téléphone, Étienne Klopfenstein est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député UDC au Grand Conseil bernois et maire de Corgémont. Également avec nous, Hervé Roquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes membre francophone du comité des jeunes socialistes bernois. On commence avec vous, Hervé Roquet. Pourquoi priver la police de moyens efficaces pour faire face à la criminalité d'aujourd'hui ? On parle de cybercriminalité, de crime organisé, donc de terrorisme, et aussi de pédophilie.
Alors, premièrement et simplement, parce qu'on n'en a pas besoin à Berne. Si vous regardez les chiffres de la criminalité à Berne, depuis 2013, infraction au code pénal, voilà, 67 000 en 2013, 50 000 en 2017. La criminalité diminue de manière générale. La même chose sur la loi sur les stupéfiants. C'est une loi qui est inutile et qui, en plus de cela, est dangereuse, liberticide, s'attaque à nos valeurs démocratiques. C'est pour ça que la jeunesse socialiste s'engage contre cette loi.
Étienne Klopfenstein, vous l'entendez, les chiffres de la criminalité montrent qu'un changement de loi ou de nouveaux outils par la police ne s'impose pas forcément.
Alors, peut-être que la criminalité a diminué, peut-être qu'elle augmentera de nouveau en 2019, ça c'est pas indiqué encore, on verra la suite, mais ce que je trouve, ce qu'on doit faire aujourd'hui, peut-être que cette criminalité vient aussi plus violente, on le voit dans nos pays voisins, combien de fois si les pays, si la police n'avait pas déjà fait des recherches en amont, eh bien, on n'aurait pas pu éviter tous les actes terroristes qui ont eu lieu.
Donc les menaces évoluent, Hervé Roquet.
Oui, alors les menaces évoluent, mais le cadre légal actuel est pour nous complètement suffisant. La police peut mener des opérations de surveillance actuellement sous contrôle judiciaire, et c'est ça qu'on veut garder. Ce qui nous choque, c'est la possibilité à la police de décider d'elle-même qui elle veut espionner pendant un mois comme ça, de manière arbitraire. Nous, ça nous choque.
Étienne Klopfenstein, quel intérêt à pouvoir mener ces fameuses enquêtes préliminaires sans en référer d'abord à la justice, en tout cas pendant le premier mois?
Parce qu'il faut agir très rapidement. On sait qu'aujourd'hui, notre population change, notre société change, elle agit très rapidement, surtout aussi avec les moyens de communication qui sont à disposition. Et puis, on voit quand même que souvent, eh bien, on a du retard. Et pour pouvoir agir avant que les faits soient là, je pense qu'il est important que cette loi soit modifiée.
Moi, je pense que vous doutez de l'efficacité de la police berlinoise. Je pense qu'elle est suffisamment efficace actuellement. La criminalité et les chiffres de la criminalité le montrent. Elle a les moyens dont elle a besoin, en fait. Et je pense que c'est vraiment aller trop loin que d'avoir une loi à ce point-là. Policière et qui enfreint à ce point-là les libertés à la vie privée des individus.
Mais en quoi ça vous gêne, Hervé Roquet, que la police puisse mener ces fameuses enquêtes préliminaires? Il y a des conditions quand même, il faut qu'il y ait des indices, et puis la justice est très vite mise au parfum.
Alors, oui, mais personne ne nous garantit que la police suivra ces conditions. C'est ça qui est intéressant avec le contrôle judiciaire, c'est que la police doit montrer les indices qu'elle a pour pouvoir commencer à espionner des gens et surveiller des citoyens et des citoyennes. Notre problème, c'est de laisser le libre arbitre à la police pour décider à qui elle veut, qui elle veut espionner. Il n'y a plus de garde-fous avec cette nouvelle loi.
Étienne Klopfenstein, pour vous, c'est problématique, plus de garde-fous. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ceux qui le craignent?
Alors, je pense que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est pas l'agent de police qui pourra décider en se disant où là il y a peut-être quelqu'un qui est dangereux et qu'il faudrait surveiller. Mais c'est quand même du personnel qualifié, du personnel qui a été très bien formé
de la police.
De la police, et il ne pourra pas faire sa petite enquête comme bon lui semble. Il y a quand même un cadre légal qui est là. C'est pas à la liberté de chacun de le faire, mais c'est réglé de manière très précise.
Oui, alors moi j'ai envie de dire que j'espérais qu'on puisse vivre dans un monde comme ça, mais en fait les bavures policières existent. Regardez en France ce qui se passe, vous verrez qu'on peut pas faire confiance simplement comme ça à la police. Et nous on n'a pas envie de donner cette liberté à la police dans le canton de Berne. Et j'aimerais aussi vous dire d'arrêter de jouer sur la peur des gens. Les citoyens et citoyennes de Berne n'ont pas peur, et on peut leur faire confiance pour ça. La police fait suffisamment un bon travail actuellement.
Est-ce que c'est pas trop donner de pouvoir à la police? C'est tout le débat, notamment en ce qui concerne une autre mesure qui fait débat, c'est les nouvelles possibilités de renvoi. Est-ce qu'on ne risque pas de discriminer certaines catégories de population? Étienne Klopfenstein, on pense par exemple aux gens du voyage que la police pourrait expulser d'un terrain plus facilement, ou bien des personnes vulnérables, contraintes d'être dans la rue.
Alors, les gens du voyage qui peuvent être expulsés, c'est possible, oui, mais c'est ceux qui ne respectent pas nos institutions, notre manière de vivre.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, les manières de vivre...
On laisse finir Étienne Klopfenstein.
Alors, qui, par exemple, occasionnent des vols, des déprédations, occupent des terrains de manière illégale. Donc ceux-là, ils peuvent être envoyés, mais il y a quand même certains terrains, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux, mais qui sont à disposition. Et nous aussi, en tant que citoyens suisses, nous sommes obligés de respecter nos lois. Donc je ne verrais pas pourquoi ces gens-là peuvent vivre de manière peut-être parfois anarchique.
Hervé Roquet, finalement, cette loi sur la police, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement un instrument pour faire respecter la loi, tout simplement ?
Non, c'est un instrument pour restreindre les libertés des citoyens et des citoyennes de Berne. La loi est suffisamment respectée actuellement, comme les chiffres de la criminalité le montrent. Et par rapport aux gens du voyage, moi j'ai envie de rappeler qu'il n'y a pas d'aire de transit actuellement dans le canton de Berne, que ces gens n'ont pas vraiment d'espace pour pouvoir vivre selon leur mode de vie, et qui est peut-être, oui, différent, mais c'est la réalité de la Suisse aujourd'hui. On n'est pas tous suisses traditionnels depuis six générations ici, et c'est bien que d'autres personnes aient un autre mode de vie, une autre manière d'être ici chez nous.
Autre point qui fâche, la prise en charge des interventions policières par les organisateurs de manifestations. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir, Étienne Klopfenstein, si en faisant payer les organisateurs de manifestations, s'il y a des débordements et des interventions de la police, est-ce que là, on n'atteint pas quand même quelque chose de fondamental, soit la liberté d'opinion via les manifestations ?
Alors, il faut savoir que cette liberté d'opinion, elle existe et elle existera encore avec la nouvelle loi, puisque quelle manifestation peuvent, ou quand est-ce que les organisateurs de manifestations peuvent être appelés à devoir payer pour des dégâts, pour autant qu'il y ait des dégâts, c'est lorsque ces manifestations sont interdites, qu'elles n'ont pas eu d'autorisation, d'une part, ou qu'elles n'ont pas respecté ce qui était prévu dans le cadre de ces manifestations. Mais clairement, les manifestations autorisées, là, il n'est pas prévu que les organisateurs doivent payer quoi que ce soit.
Moi, j'ai envie de dire que c'est scandaleux d'exiger des organisateurs de manifestants qui puissent contrôler les comportements de chacun des participants à la manifestation. Si on organise une manifestation, on ne peut pas savoir qui viendra exactement manifester avec nous. Et oui, on est contre les dégradations, contre les violences, mais ce n'est pas une raison pour facturer l'intervention de la police lorsque ces événements ont lieu.
Et y a un Hervé problème. Roquet, si on parle de la Rheinthalée, parce qu'il y a un exemple qui fait débat dans cette campagne, la Rheinthalée, on peut se douter que parfois il peut y avoir des débordements quand même.
Le bâtiment de la Rheinthalée est géré par les gens qui y sont, et les débordements sont gérés eux-mêmes. Ils gèrent le bâtiment eux-mêmes, il n'y a pas d'atteinte et de cassage à la Rheinthalée que je sache.
Étienne Klopfenstein, c'est quand même risqué aussi de se priver de mouvements importants au niveau culturel, au niveau alternatif, en tenant pour responsables les responsables de la Rheinthalée pour des débordements dont ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas prévoir.
Alors, ce qu'on a souvent remarqué, et d'après les informations que j'ai reçues, bien sûr, il y a peut-être des gens qui sont relativement pacifistes aussi à la Rheinthalée et qui n'ont pas envie de faire les casseurs. Mais le problème que l'on rencontre quand même souvent, c'est qu'il y a des casseurs à l'intérieur du bâtiment ou qui sont en partie protégés. Et puis, les responsables alternatifs de la Rheinthalée ne permettent pas à la police d'aller contrôler ces personnes et, le cas échéant, les enlever pour qu'ils gênent.
On comprend bien.
Là, donc, ça devrait être possible. Parce qu'après, finalement, qui c'est qui paye ? C'est le contribuable.
Très bien.
Et c'est pas correct.
Hervé Roquet, pour le mot de la fin, très rapidement.
La police est un service public, on ne doit pas le privatiser, le marchander, on n'a pas à payer les policiers qui font simplement leur travail, qu'on paye avec leurs impôts. Et non à la vidéosurveillance. Deuxième message, cette nouvelle loi permet la vidéosurveillance des espaces publics dans tout le canton. On ne veut pas être filmé quand on est en train de marcher dans la rue, dans le canton de Berne.
Merci messieurs, il y aura encore beaucoup à dire bien entendu, mais ça nous permet sans doute à nos auditeurs de les aider à se forger une opinion. On vous retrouve ce débat en ligne. Merci messieurs, bonne soirée.
Bonne soirée.
Et puis la semaine prochaine, eh bien, on débattra de l'objet fédéral en votation le 10 février également contre le mitage du territoire. Excellente soirée à tous.
Place publique.